Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'homme passe infiniment l'homme. Vous connaissez sans doute cette parole fameuse du grand Pascal. Que peut donc signifier ce trait génial de l'auteur des Pensées ? Tout simplement que l'être humain est très différent des autres créatures terrestres, en cette mesure qu'il ne saurait se résumer d'emblée à ce qu'il est d'emblée. C'est-à-dire que, sorti du ventre de sa mère, le petit homme n'est pas encore un homme. Il l'est déjà parce qu'il a le patrimoine génétique d'un homme, mais il ne l'est pas encore parce qu'il n'a rien produit et rien fait. On dit en philosophie que l'homme n'est pas seulement un être de nature, mais qu'il est un être de culture. Je pense que vous avez suffisamment de rudiments de classe de terminale de philo, même pour les matheux d'entre vous, pour avoir déjà entendu parler de ça. L'homme n'est pas seulement un être de nature, il est également un être de culture. Et si Sartre est excessif, à qui l'on doit un certain nombre d'idées qui ont, je crois, projeté dans l'abîme les deux dernières générations, si Sartre est excessif lorsqu'il dit que l'homme n'est que ce qu'il se fait, je crois qu'il y a quand même quelque chose de vrai dans cette parole. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se contenter de se laisser sortir du ventre de sa maman pour considérer qu'il est pleinement homme. Il doit sans cesse se dépasser. Regardez l'ordre que Dieu intime à ce premier couple humain en Genèse 1 et Genèse 2. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la. Ça fait quand même beaucoup d'ordre et ça implique beaucoup d'activité de la part de cette petite créature humaine. On dit que si Dieu, du moins les pères de l'Église, interprètent pour une part d'entre eux le fait que Dieu ait créé l'être humain le sixième jour et qu'il se soit reposé le septième jour, ce n'est pas seulement pour piquer un petit somme parce que le bon Dieu n'a pas vraiment besoin de dormir, voyez-vous. Si le Seigneur a voulu se reposer le huitième jour, c'est comme pour laisser la place à la créature qu'il veut. Venait la veille de tirer du néant. C'est-à-dire que ce huitième jour est le jour au cours duquel l'homme aura à agir lui-même, à non seulement soumettre la création qui l'entoure, mais à se développer en tant qu'être humain. Il y a donc, au fond de l'être humain, c'est Dieu qui l'y a mis, ce désir, cette puissance parfois inconsciente, qui pousse l'homme à sortir de lui-même, à se dépasser soi-même. Mais voyez-vous, je pense qu'on peut identifier trois types de dépassement de soi, évidemment le dernier étant le seul acceptable lorsqu'on connaît le plan de Dieu sur la créature. Le premier type de dépassement de soi, c'est cette idéologie qui règne dans le corps scientifique, pour une grande part, qui règne dans la tête de certains hommes politiques. C'est cette idéologie qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, ce concept a été forgé par Julian Huxley, qui est le biologiste frère de Aldous, dont vous avez sans doute entendu parler, The Brave New World, donc le meilleur des mondes. Ce titre étant ironique, bien sûr, ce biologiste donc a explicitement dégagé ce terme de transhumain. Le transhumain, c'est un homme qui reste homme, mais qui multiplie, qui décuple son potentiel par ses propres forces et en ayant recours à ce que lui offre notamment la biotechnologie. Oui, on avait affaire à un biologiste. Comment fait-on pour que l'homme puisse ainsi dépasser ses propres limites ? Eh bien, on promeut une politique de réduction de la population mondiale, on ne garde que les meilleurs grâce à l'eugénisme et grâce aux biotechnologies, c'est-à-dire en fait à une alliance entre la robotique et l'être humain, on arrive à créer une intelligence artificielle qu'on greffe dans l'homme, si vous voulez, qui permet à l'homme d'excéder l'homme. On se doute bien que ce projet complètement fou, qui n'est pas seulement le fait de quelques olibrius isolés, croyez-le, qui a même son université dans les environs de Berkeley, qui travaille sous la houlette de la NASA. Vous voyez quand même que tout cela est protégé par certaines entités bien connues. Ces transhumanistes, donc, entendent permettre à l'homme d'accéder à plus que lui-même, mais à la force seule du poignet. en ayant recours à la biologie, à la mécanique, à l'informatique, bref, à des choses à la portée de la seule nature humaine. On imagine bien que ce mythe prométhéen remis au goût du jour risque bien d'amener l'homme à toutes sortes d'échecs, à toutes sortes de drames. La deuxième manière de se dépasser soi-même pour l'être humain, je crois, tient à ce que croyaient les Juifs. Je vais me dépasser moi-même en suivant les préceptes que Dieu m'a donnés, en suivant à la lettre et dans les moindres détails cette loi que Dieu a transmise par la bouche de Moïse à son peuple élu. Là encore, je crois que si cette solution est déjà plus noble, plus fine que le transhumanisme, parce qu'elle tient compte de la volonté de Dieu, en réalité, cette deuxième issue pour un dépassement de soi, dénoncée par Jésus, est insuffisante. On croit se livrer à Dieu et à sa providence, mais en réalité, on ne se livre qu'à la force de ses petits poignets. C'est parce que j'applique au pied de la lettre les 600 et quelques préceptes que les juristes ont cru pouvoir tirer du décalogue que je vais arriver à me dépasser moi-même et devenir injuste, c'est-à-dire une sorte de surhomme. La troisième voie, et la seule que nous pouvons retenir, c'est celle à laquelle fait allusion saint Paul dans son épître aux Philippiens, épître magnifique. Je crois que nous aurions intérêt à la relire souvent, parce qu'elle nous dit qui nous sommes. Depuis que cette petite graine de la vie surnaturelle a été plantée en nous au baptême. Surhomme, nous le sommes, bien sûr, depuis que nous sommes devenus, comme nous le dit saint Paul, citoyens des cieux. Nous ne sommes plus de cette terre. Et je sais bien que je vous le rabâche souvent, peut-être trouverez-vous que tout cela est très monotone, mais que voulez-vous? Il se trouve que cette monotonie, on la trouve déjà dans l'Évangile et dans les épîtres de saint Paul. Nous sommes citoyens des cieux. Nous avons reçu la grâce surnaturelle, Jésus est venu en nous, parce que quelque chose en nous appelait un plus d'être, et le Seigneur nous a comblés infiniment plus que nous ne l'attendions. C'est-à-dire que ces attentes dont je viens de vous parler, des transhumanistes, ou ces attentes des Juifs de l'Ancienne Alliance, qui étaient des attentes déjà assez nobles, du moins pour les Juifs, encore plus que pour les transhumanistes, ces attentes-là n'étaient finalement pas grand-chose. Ces aspirations étaient à la mesure de l'intelligence humaine, c'est-à-dire, disons-le, proche de zéro. Quoique l'homme se dresse sur ses ergots et se prenne pour quelqu'un, il n'est rien. Ce que le Seigneur Jésus nous propose, c'est rien moins qu'une déification. Que nous devenions participants de la nature divine, comme nous le dit saint Paul ou comme nous le dit si bien saint Jean. Nous sommes devenus citoyens des cieux. Alors, je crois que dans ces conditions de citoyens des cieux, nous devons adopter les mœurs des citoyens des cieux. Nous avons fêté la Toussaint il y a peu de temps, j'y ai fait allusion. Les mœurs des citoyens des cieux n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous pratiquons réellement chaque jour, mes bien chers frères. Et je suis le premier à battre ma coulpe. Nous avons par exemple cette fâcheuse tendance à toujours, alors soit rechercher les biens matériels, le confort, les plaisirs et que sais-je, mais je crois, au-delà de tout cela, ce qui fait que nous sommes trop embourbés dans le monde, c'est que nous nous laissons affecter par trop, je crois, par le devenir du monde, par ces conflits, par tout ce qui nous paraît menaçant dans ce monde. Nous oublions que nous avons un refuge qui n'est pas une façon facile de s'évader du monde, mais qui est, je crois, une vie plus authentique. Nous avons un refuge dans la vie spirituelle. Nous sommes le temple de la Trinité Sainte. Nous sommes les compagnons de la Très Sainte Vierge Marie, de tous les saints du ciel et de tous les anges du ciel. Nous sommes habités par la grâce. Qu'avons-nous à faire de toutes ces histoires politiques, de toutes ces histoires ridicules qui aujourd'hui agitent le monde et dont les médias et d'autres font un absolu? Je crois que nous devrions prendre garde de ne pas nous faire mordre régulièrement par le serpent de cette manière-là. Trop souvent, nous sommes en train de geindre sur les coteries, sur les guerres, les affrontements, sur parfois les courses à tel ou tel poste politique. Tout cela, c'est vrai, a son importance pour la conduite de ce monde. Mais en tant que fils du ciel, en tant que fils de la lumière, nous ne devons pas passer tout notre temps et dépenser toute notre énergie et nous laisser affecter en mal par le sort de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Évidemment, nous ne pouvons pas nous contenter, encore une fois, de nous retrancher dans cette condition transhumaine, comme je viens de vous le dire, mais transhumaine dans le bon sens du terme, acquis par la grâce, qui ont un ticket pour le ciel. Si nous sommes conséquents avec ce ticket-là, nous entrerons, c'est sûr, dans la gloire. Nous ne pouvons pas nous contenter, bien sûr, de rester entre nous. Il n'est pas question de cela. Dans un camp des saints, un camp retranché, de pur, pas du tout. Le Seigneur ni le collège apostolique n'ont eu cette conduite, évidemment. Nous ne pouvons pas faire de différemment d'eux. Que devons-nous faire? Porter à la face du monde cette joie qui nous anime. Expliquer à tout un chacun qu'il peut devenir, quand bon lui semblera, citoyen des cieux. S'élever, il aspire à être plus que lui-même, parce qu'il est un être humain en qui ce désir a été greffé depuis sa constitution. Il veut être plus qu'un être humain, il le deviendra par les sacrements, il le deviendra par la foi, et alors il entrera dès cette terre dans les cieux. Voilà, je crois, le fond du message chrétien, voilà le cœur de notre religion. Vous voyez donc que nous n'avons pas trop à nous laisser affecter. Celui du dessous essaye en permanence de nous mettre la face contre terre et de nous faire nous préoccuper d'abord des histoires de boissons, de nourriture et de politique. Eh bien, nous pouvons répondre à ce brave ce brave ange déchu, que nous sommes citoyens des cieux, que nous n'avons aucun conseil à recevoir de quelqu'un qui ne le sera jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.